Bonjour frères et sœurs et bon sabbat. Aux États-Unis, aux années 30, a eu lieu la grande dépression économique. Cette période très difficile pour les Américains a touché l'ensemble de la population. Mais pendant cette période, un phénomène climatique de sécheresse a détruit les fermes du centre du pays. À l'origine, les plaines du sud étaient des prairies où passaient des bisons et vivaient des Amérindiens nomades. L'irrégularité des précipitations, les sols légers et les vents forts ne s'y prêtent pas aux activités agricoles. Mais dans les années 1900, le faible coût de la terre, des chutes de pluie importantes, le progrès du machinisme agricole y attirent des immigrants. Des millions d'hectares de prairies cèdent la place à des champs de céréales, faisant de la région le cœur agricole des États-Unis. Lorsque la Grande Dépression touche les plaines du Sud au début des années 1930, les agriculteurs, pour compenser leurs pertes, décident d'augmenter leur production en multipliant le nombre de terres labourées. Mal leur en prend. De 1932 à 1937, la région est ravagée par la sécheresse, la couche qui laisse les terres à nu, exposées au soleil et au vent. Ceci emporte la couche de terre arable, causant d'effroyables tempêtes de poussière. Ils appelaient ça les blizzards noirs, qui détruisent récoltes et pâturages et ensevelissent habitations et matériel agricole. Les États du Texas, du Colorado, du Nebraska, du Kansas et de l'Oklahoma ont été fort impactés par cette crise. On a renommé la région le Dust Bowl ou le bassin de poussière. C'était en fait une famine. Mais au lieu de porter ce nom famine, le mot Dust Bowl ou l'expression Dust Bowl a été créé pour décrire la situation. Il y avait beaucoup de personnes qui ont été obligées de quitter leur ferme, quitter là où ils avaient planté et partir ailleurs sans savoir où aller pour pouvoir continuer à produire pour donner à nourrir à leur famille. C'était une situation épouvantable. Dans une nation tellement bénie avec abondance, le bassin de poussière fut une crise épouvantable. Les investissements, les usines, l'emploi, les récoltes, tout a été touché par cette crise économique aux États-Unis et le fait d'avoir ces conditions de sécheresse a augmenté les pertes et le dommage qui a été causé. C'est comme si ces bénédictions de terre, de culture agricole ont été enlevées. C'est comme si même l'Éternel avait enlevé la bénédiction de ce pays. Mais je n'ai jamais vu d'article mentionnant le lien entre la dépression, la grande dépression américaine et Dieu. Mais est-ce que c'est possible que Dieu enlève ses bénédictions? Bien sûr, c'est possible qu'il enlève ou qu'il nous donne l'occasion de ne pas profiter de ses bénédictions de temps en temps. Mais nous n'avons pas vu ce type de reportage dans les journaux. De l'autre côté, aujourd'hui, combien de fois avez-vous vu un article qui parlait de bénédiction de Dieu dans la commerce, dans l'industrie, dans l'agriculture même? C'est en fait dommage que les hommes ne connaissent pas leur Créateur. Le fait de ne pas connaître le Créateur ne permet pas à l'homme de reconnaître la bénédiction de son Créateur, ni le moment de correction, de châtiment, quand le Créateur, Dieu, enlève ce type de bénédiction. Donc, l'homme n'est ni capable de remercier Dieu pour ses bienfaits, ni capable d'apprendre des leçons importantes quand il nous châtie. Et nous, en tant que membres de l'Église, reconnaissons-nous l'Éternel comme source de la croissance dans notre vie quotidienne, dans notre vie familiale, même notre vie spirituelle? Reconnaissons-nous l'Éternel comme source de la croissance? En fait, la création même sert comme modèle pour la croissance. Si on observe la création de Dieu, on voit partout la croissance. On voit que c'est un système qui fonctionne, qui produit, qui augmente, qui donne la croissance. Et c'est Dieu qui a mis en place ce système pour l'homme. Le plan de Dieu même que nous connaissons est un plan d'accroissement. Le plan que nous connaissons par des Écritures, par des versets comme Hébreux chapitre 2 et le verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. L'idée de conduire à la gloire beaucoup de fils, en fait, veut dire qu'il y a un processus en place d'accroissement. Et donc, ceci fait partie du plan de Dieu. Mais parlons d'abord de la création physique. Les fleurs et les arbres poussent, la pluie les arrose. Les couleurs qui augmentent la beauté de cette planète, la nourriture pour toutes les créatures, les habitats naturels adaptés aux animaux, tout ce qu'il nous faut pour vivre en abondance se trouve dans la création divine. Il nous a prévu une certaine croissance, une abondance. Dieu a fait en sorte que toute sa création sert d'un modèle de la croissance. Savez-vous d'où viennent les matériaux de construction pour les arbres? Nous connaissons bien le miracle, bien sûr, de la chlorophylle et les chloroplastes qui convertissent l'énergie ou la lumière du soleil en énergie stockable. Mais sommes-nous conscients du miracle des ingrédients dans le bois? D'où viennent ces ingrédients, ces matériaux de construction? Savez-vous? Ne vous inquiétez pas si cela vous échappe. Récemment, j'ai vu une vidéo où quelqu'un interviewait un groupe de gradués de l'université de Harvard aux États-Unis, l'université presque le plus reconnue aux États-Unis. Ces gradués n'arrivaient pas à répondre correctement à cette question de d'où viennent ces matériaux de construction pour les arbres. Mais c'est un vrai miracle. En fait, les matériaux viennent de l'air. Ils viennent de l'air dans l'atmosphère. Les feuilles des arbres récupèrent le dioxyde de carbone. Les molécules sont converties en matériaux de construction. Donc c'est le carbone qui vient de l'air, qui est tellement invisible, qui devient le bois des arbres. Imaginons que ce soit ces matériaux de construction pour un arbre qui arrive vite fait de l'air. Donc l'accroissement des arbres se fait par leur capacité de récupérer l'abondance de carbone dans l'atmosphère. N'est-ce pas fascinante la création de Dieu? Je trouve ça très fascinant que de rien du tout, de l'air même, nous arrivons à voir les ingrédients ou les matériaux de construction pour un arbre. Imaginons que ça soit pareil pour une maison. Voici mes matériaux de construction. Voilà, et c'est de l'air. Et puis, tout de suite, vous avez des matériaux de construction arrivés de nulle part. En fait, c'est un miracle, mais il y en a tellement. Il y en a tellement dans la création divine. Et tous ces miracles sont programmés, sont mis en place par Dieu. Dieu a aussi, si Dieu a construit ou qu'il a mis en place ces systèmes, c'était bien sûr avec un plan, n'est-ce pas? Dieu a aussi donné une mission particulière à l'homme vis-à-vis de sa création. Le psaume 115 et le verset 16. Le psaume 115 et le verset 16 indiquent ce rôle de l'homme, ce rôle clé de l'homme vis-à-vis de la création divine. Le psaume 115 et le verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Nous sommes une sorte d'économe de la création. Nous sommes les économes de la création divine. Reportons-nous maintenant à l'évangile de Luc et le chapitre 12. Luc chapitre 12. Parlons un petit peu plus des économes. Nous allons voir qu'il y a bien sûr des leçons, comme toujours, des leçons spirituelles qui arrivent de ces pratiques ou de ces idées qui décrivent des choses physiques. Luc chapitre 12 et le verset 42. Luc 12 et le verset 42. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Donc ici, nous avons l'exemple d'un économe fidèle et prudent. Deux qualités qu'il faut pour devenir économe respecté par Dieu. Cet économe fidèle et prudent aura sa récompense. Il aura la reconnaissance du maître. Et donc, bien sûr, nous avons ici beaucoup de parallèles entre l'économe fidèle et prudent en termes de la création et la maison, et aussi des parallèles avec la vie spirituelle. Mais reportons-nous aussi en Tite, chapitre 1 et le verset 7. Souvent, nous lisons ces quelques versets ici, quand nous discutons l'idée d'un serviteur peut-être dans l'Église, un serviteur fidèle, un serviteur. Mais lisons maintenant Tite, chapitre 1 et le verset 7. Normalement, nous parlons des anciens, des responsables dans l'Église quand on discute ces versets, et c'est bien sûr le cas, mais je voulais souligner le fait que dans ces quelques versets, nous avons l'idée qu'un serviteur dans l'Église soit un économe, une sorte d'économe, quelqu'un qui est exemplaire dans sa conduite vis-à-vis de sa responsabilité. Le verset 7, Tite 1, verset 7, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Je trouve très intéressant que ici, dans cette description de certaines qualités des évêques ou des anciens dans l'Église, nous avons l'idée d'un économe, un économe de Dieu, une certaine responsabilité de surveiller sur quelque chose sous une certaine responsabilité, sous une certaine mission qui a été, bien sûr, ordonnée par Dieu. je trouve intéressant que, avant même de mentionner ici des qualités d'exhorter et doctrinaux, nous avons l'idée de l'économe. Nous avons de certains traits de caractère qui sont soulignés par Paul pour dire que ces qualités vont avec cette responsabilité. Ces qualités sont importantes parce que, en fait, l'Église appartient à Dieu, n'est-ce pas? L'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ, c'est l'Église de Dieu. Et Jésus-Christ est bien sûr le chef de l'Église. Mais nous avons un sens là où il y a une responsabilité donnée que l'économe de Dieu doit servir, pas avec arrogance, avec colère, pas avec violence, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Ces idées sont très importantes quand ils sont liés à l'idée d'être un économe. Un économe de quelque chose de valeur, quelque chose qui est important aux yeux de Dieu, aux yeux du maître, si nous faisons le lien entre ces versets et ce que nous avons lu dans l'évangile de Luc. Donc, considérant ces idées ici, non seulement avec le cadre de la responsabilité dans l'Église, mais l'idée d'être un économe de Dieu, l'idée que nous sommes tous des économes de Dieu. 1 Pierre, chapitre 4 et le verset 10. 1 Pierre, chapitre 4 et le verset 10. Ici, Pierre nous instruit que c'est Dieu qui nous donne le don et c'est pour que l'on puisse mettre en service ce don que Dieu nous accorde. L'idée que Dieu nous accorde un certain don est très important. Ce n'est pas quelque chose à considérer légèrement. Le verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Non seulement nous avons la responsabilité de protéger ou de garder un certain don, mais bien sûr la mettre en pratique, le mettre ce don en pratique, d'employer ce que Dieu nous accorde pour le bien des autres. C'est bien sûr Dieu qui fournit le don. C'est comme ça que Dieu travaille en nous. Dès le début de l'histoire de l'homme, l'abondance qui a été donnée par Dieu a été associée avec une sorte d'entretien ou de surveillance. Cela me fait penser, c'est à mes enfants. Dans la famille, nous avons nos enfants et nous sommes des gardiens, nous sommes des économes de ce qui appartient à Dieu. Même nos enfants appartiennent à Dieu. Nous sommes ordonnés de protéger, d'élever nos enfants avec l'idée qu'ils appartiennent à Dieu. Souvent, nous essayons à la maison, en tant que parents, à faire une association entre ce que nos enfants possèdent et leur propre responsabilité de s'occuper de ce qu'ils ont été donnés. Donc, ces leçons d'économe peuvent commencer très tôt, même quand nous sommes des enfants, quand nous avons nos enfants, nous pouvons enseigner à nos enfants l'idée d'être de bons économes. Nous essayons d'enseigner le respect de la propriété aussi des autres et nous soulignons à nos enfants l'importance de se soigner leurs possessions et de participer aux activités journalières comme dresser la table, préparer leurs boissons, préparer la vaisselle, etc. Cette idée de participer à la vie familiale avec des tâches quotidiennes leur fait appartenir à la maison et aux tâches quotidiennes qui sont importantes. Ils ont une certaine appartenance qui se développe avec le temps. Souvent, nous sommes obligés, bien sûr, de leur rappeler de leurs petites responsabilités pour les aider à considérer ces tâches leurs propres responsabilités. Et je trouve des parallèles abondantes entre cet exemple d'enfant et les responsabilités, l'idée d'apprendre d'être responsable de quelque chose et nos vies quotidiennes, notre vie quotidienne dans laquelle nous apprenons à bien surveiller, à bien entretenir l'Esprit de Dieu en nous. Donc ces choses ne se font pas instantanément. Il faut un investissement de temps et d'énergie pour développer le sens de la responsabilité. Je crois qu'une faiblesse de notre société moderne, occidentale aujourd'hui, est le manque d'un bon sens de responsabilité. Bien sûr, vis-à-vis de ce que nous possédons, mais aussi d'une certaine responsabilité envers les autres. Beaucoup de gens croient que tout leur est dû, mais sans comprendre le besoin de travailler, d'être de bons économes. Je crois qu'une faiblesse existe, mais nous pouvons le surmonter. En passant, je ne veux pas oublier de dire que Dieu nous donne ce qu'il nous faut. Mais des fois, nous avons de grandes attentes qui dépassent ce qu'il nous faut. La croissance n'est pas nécessairement la richesse. Dieu nous donne ce qu'il nous faut, mais des fois nous avons une certaine envie ou une volonté d'avoir plus qu'il nous faut. Nous ne sommes pas arrivés au bout de ce que Dieu a déjà accordé à l'homme en termes de la croissance. Il faut également considérer le développement de la technologie, les sciences diverses et variées qui ont permis à l'homme d'inventer beaucoup de bonnes choses. N'oublions pas dans tout cela que c'est Dieu qui a donné à l'homme la possibilité, la capacité même de réfléchir profondément. Malheureusement, l'homme a tendance à profiter des découvertes scientifiques pour le but de développer la puissance militaire, n'est-ce pas? Je pense aux découvertes de Niels Bohr dans le domaine de la mécanique quantique. Je pense à ces découvertes qui ont plus tard été utilisées pour faire des armes de guerre. Un physicien même, Edward Teller, a profité des développements de Bohr dans ce domaine pour inventer la bombe à hydrogène. Une partie de ses confrères de Teller, se sont fâchés avec lui, car ils étaient des pacifistes. Ils ont dit à Teller, le monde serait meilleur sans Edward Teller. Et c'est jusqu'à ce point que ce qu'il a inventé ou ce qu'il a découvert avec ses recherches a été dangereux. Je vous donne cet exemple pour souligner le fait que les hommes arrivent souvent à profiter des développements scientifiques, une sorte de croissance, pour faire la guerre, pour faire des choses mauvaises. Quand j'étais jeune ingénieur, j'ai travaillé pendant 2 ans pour le développement, pour le département de la défense aux États-Unis sur un site de construction d'une usine d'incinération d'agents inertants. Je peux vous dire que j'ai appris très vite que jusqu'à tel point, l'homme cherchait un pouvoir à éliminer ses ennemis. Les effets de ces agents énervants sont horrifiants, mais ils étaient développés par des scientifiques qui ont profité des avancements dans les domaines de la chimie et de la physiologie. deux domaines qui normalement sont développés pour le bien. Donc, nous avons la tendance, l'humanité a la tendance de développer des choses mauvaises, même avec les découvertes scientifiques. Donc, pour résumer ce point, Dieu a donné à l'homme le monde pour son domaine. Mais l'homme n'a pas toujours assumé ses responsabilités pour faire bon usage de la création divine. Mais le monde est sous la déception, n'est-ce pas? Le monde ne connaît pas la voie de son créateur. Par contre, l'Ancien Testament nous instruit sur la nation d'Israël, même les descendants de Jacob, d'après son propre dessein parfait, l'Éternel a choisi un peuple particulier, une nation à lui. Dans l'histoire de la nation d'Israël, nous avons une multitude d'exemples où Dieu a donné la croissance à son peuple choisi. Et aussi des moments où ce peuple a trahi l'Éternel. Mais l'Éternel a donné la croissance aux enfants d'Israël lorsqu'ils séjournaient en Égypte. En fait, c'était la famine qui a poussé Jacob et ses fils à quitter leur pays pour déménager en Égypte. Dieu avait prévu leur secours en son serviteur fidèle Joseph. Lisons un petit peu une résumé de la vie de Joseph, Genèse chapitre 45 et le verset 4. Commençons avec le verset 4. Ici, nous allons découvrir, nous allons relire cette idée de croissance, cette idée que Dieu travaille avec son peuple. Il œuvre avec son peuple pour donner à son peuple la croissance. Genèse chapitre 45 et le verset 4. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Même avec la souffrance de la vie de Joseph, il a pu reconnaître la main de Dieu dans sa vie, pour sa famille aussi. Le verset 6, « Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi seigneur de toute Égypte, descends vers moi, ne tarde pas. » Donc, l'histoire continue, ils vont déménager en Égypte, ils vont habiter dans le pays de Goshen. Et c'est très intéressant, le simple fait de mettre de côté cette fierté et de rester humble. Joseph a pu voir la main de Dieu dans la croissance directement liée à sa famille, mais plus tard qui aurait un impact sur la nation d'Israël entière. Une nouvelle nation, si vous voulez. Un peuple choisi. Un peuple élu par Dieu. Le peuple d'Égypte aurait beaucoup souffert si Pharaon n'avait pas suivi le conseil de Joseph dans ses années de sécheresse et de famine. C'est intéressant que Dieu a béni cette nation païenne pour avoir un lieu de refuge pour son peuple. Dieu avait prévu un lieu de refuge pour les enfants d'Israël. Le succès d'Égypte a protégé les enfants d'Israël pendant le temps que Dieu accomplissait un accroissement de la population. Encore une fois, dans un contexte différent, Dieu donne la croissance. Reportons-nous maintenant au psaume chapitre, au psaume 105. Psaume 105 et le verset 4. Avec une continuation de cette histoire d'Israël, de nation, la nation d'Israël, née en Égypte, dans cette période difficile. Le psaume 105. Disons une partie de ce psaume qui raconte cette histoire de croissance, cette histoire de croissance. Donc, au verset 4, pour commencer, « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. » Ici, encore une fois, nous avons l'idée de cette nation élue. « L'Éternel est notre Dieu. » Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance et promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Et bien sûr, nous avons en tête cette promesse de croissance liée à Abraham et sa fidélité. Verset 10, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia les rois à cause d'eux. Au verset 15, ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Donc, cette idée de protéger cette nation. Et puis, le verset 16, il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Il envoyait devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Et puis, nous avons l'histoire, dans quelques versets, de le succès de Joseph dans le pays d'Égypte. Puis au verset 43, un peu plus loin, il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus, au milieu des cris de joie. Il leur donna les terres des nations et ils possédèrent le fruit du travail des peuples. Imaginez d'entrer dans la terre promise et de voir que les villes, les fermes, les plantations ont été déjà préparées en avance par les autres. Ce n'était pas simplement la terre que Dieu a donnée à son peuple, mais une terre promise, une terre déjà préparée pour leur habitation. Imaginez qu'ils ont pu profiter de l'œuvre, le travail des peuples qui étaient là avant eux. Donc non pas seulement les terres, mais des fermes prêtes à exploiter, des villes, des maisons, tout était prêt. Nous sous-estimons des fois ce que Dieu nous offre. L'Éternel a donné la croissance à la maison de David plus tard. Il lui a donné du secours quand les armées de Saül le poursuivaient. L'Éternel a donné de la sagesse à Salomon. L'Éternel n'a pas oublié son alliance avec Abraham. La base de cette alliance était une promesse d'augmenter le nombre des descendants d'Abraham. Nous souvenons de Genèse chapitre 15 et le verset 5. Regarde vers le ciel, Dieu dit à Abraham, et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Voilà une postérité de croissance. Et voilà le lien entre les enfants d'Israël et l'Église du Nouveau Testament qui a été fondée le jour de la Pentecôte dans l'année 31 de notre ère. Il y a un lien entre cette nation physique et la nation spirituelle qui est aujourd'hui l'Église de Dieu. Depuis ce jour, en 31 de notre ère, et jusqu'à présent, l'Éternel travaille encore avec son peuple et à travers l'Église afin d'accomplir une récolte particulière, les prémices. Ceux qui sont restés fidèles ont fait partie de ce groupe qui a pu voir un miracle extraordinaire le jour de la Pentecôte. Souvenons de ce jour de la Pentecôte où ils étaient tous ensemble dans l'unité, dans un même lieu. Ils étaient en attente de quelque chose de très important, quelque chose qu'il fallait avant de continuer à prêcher l'évangile de Dieu. C'est intéressant que ce jour de la Pentecôte, la base spirituelle a été établie pour l'Église. C'est pour ça qu'il fallait que les disciples attendent ensemble d'après les instructions de Jésus. Autrement, ils auraient pu partir directement prêcher l'Évangile dans toutes les nations de leur propre force à eux. Mais ils attendaient, même s'ils ne savaient pas, ils attendaient la puissance de Dieu, la puissance divine. Ils ne savaient pas ce que c'était, mais ils l'attendaient. Ils avaient la foi. Et Dieu a béni leurs efforts. Dieu a béni les efforts de ceux qui attendaient son aide, qui comptaient sur lui pour la croissance. Mais Dieu n'a pas cessé de donner la croissance à l'Église de Dieu le jour de la Pentecôte, quand ils ont pris encore 3000 dans une journée. Paul nous explique que la croissance a continué. La croissance n'a pas cessé ce jour de la Pentecôte. Donc la croissance fait partie de la vie spirituelle de l'Église. 1 Corinthiens chapitre 3, Paul discute cette idée de croissance. 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 5. Commençons avec le verset 5. Paul explique les différents rôles qui existent dans l'Église, mais il explique de manière très importante, il explique l'idée ou le principe que c'est Dieu qui accorde la croissance. C'est Dieu qui bénit nos efforts ou pas. 1 Corinthiens chapitre 3. Et le verset 5. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Il est très intéressant, à mon avis, que Dieu souligne par Paul, ici Paul souligne l'importance que nous tous nous souvenons du fait que c'est Dieu qui fait croître. Nous avons nos efforts à faire. Bien sûr, nous faisons des efforts, mais nous comptons, nous sommes basés sur la croissance qui est donnée ou accordée par Dieu. Nous sommes presque rien, sans son aide. Malheureusement, il y en a qui entendent la vérité, autrement dit, ils reçoivent la semence dans ce processus de croissance, mais il ne dure pas. Dans la parole du semeur, nous avons encore une fois le thème de la croissance, mais même dans la croissance, il y a des pertes. Regardons un peu Matthieu chapitre 13, parabole du semeur. Matthieu chapitre 13 et le verset 20. Ici, nous avons la description de différentes terres, mais c'est toujours la même semence, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 13 et le verset 20, l'explication de ce parabole. Le verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de sa parole, la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, et un autre 30. La mission de l'Église de Dieu n'est pas de rester isolée et d'attendre en silence le retour de Jésus-Christ. Considérons les instructions de Jésus à ses disciples concernant l'enseignement. Matthieu 28 et le verset 18 à 20. L'enseignement apporte quelque chose. L'enseignement apporte un fruit spirituel. C'est une sorte de croissance. Matthieu 28 et le verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les doctrines qui comprennent les commandements, la prophétie, les principes de la vie chrétienne font partie de l'enseignement. L'idée de au verset 20, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il est très important non pas seulement de semer, mais ou de disperser l'évangile du royaume de Dieu, mais aussi de continuer. C'est une surveillance, c'est un entretien, l'idée d'enseigner à ceux qui sont appelés par Dieu à observer tout ce que il nous a prescrit. L'enseignement implique l'apprentissage dans la bonne voie, la transmission des valeurs. Les membres de l'Église continuent aujourd'hui dans la voie de l'instruction avec l'aide du Saint-Esprit en nous. C'est cette force en nous par laquelle Dieu travaille en nous. 2 Pierre et le chapitre 3. 2 Pierre et le chapitre 3. Jésus a donné ce commandement à ses disciples, Matthieu 28. Et maintenant, nous avons l'apôtre Pierre, 2 Pierre, chapitre 3. Nous avons cet exemple que le message n'a pas changé. Cette mission de l'Église n'a pas changé. 2 Pierre 3 et le verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'on traîne par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Au verset 18, nous avons une instruction de croître dans la grâce et dans la connaissance. La connaissance de notre Seigneur implique une certaine compréhension, connaissance de la parole de Dieu. Et bien sûr, l'obéissance vient avec cette connaissance. La connaissance sans l'obéissance ne sert à pas grand-chose. Les membres aujourd'hui reçoivent des talents individuels. Des fois, nous posons la question, mais Dieu va s'occuper de nous, n'est-ce pas? À quoi je sers? Quel est mon rôle si Dieu s'occupe de tout? Est-ce que mes actions, est-ce que mes efforts auront un impact? Est-ce qu'ils sont importants aussi? Je crois que nous avons déjà lu que Paul a expliqué que les efforts sont là et sont importants, mais ils ne sont pas importants si Dieu n'est pas derrière nos efforts. Mais si Dieu est en train de bénir nos efforts, si nous faisons sa volonté, nos efforts sont très importants, peuvent avoir un impact important sur l'Église. Donc, l'idée de l'Église de Dieu aujourd'hui, la mission implique une production, une croissance spirituelle. Une croissance spirituelle chez les membres de l'Église. Jésus est comme l'homme qui a laissé sa maison avec ses serviteurs. Il attend de nous une bonne gestion du don du Saint-Esprit et de nos responsabilités dans l'Église. Marc chapitre 13. Marc chapitre 13. Oui, nos actions ont un impact sur l'Église. Nos actions ont un impact parce que nous faisons partie de l'Église. Nous faisons partie de l'Église et donc nous sommes tous unis ensemble. Quand nous avons de la croissance dans notre vie spirituelle, les autres membres de l'Église devraient profiter aussi de cette croissance. Marc chapitre 13 et le verset 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. L'idée de surveiller ou donc d'un entretien et de veiller ici est très important. La gérance n'est pas seulement au niveau physique, la création, la terre, etc., mais elle est aussi au niveau spirituel pour les membres de l'Église. Et Dieu attend de nous un rendement spirituel. Dieu a remis beaucoup d'autorité à ses serviteurs. Et il nous a indiqué à chacun de nous une tâche. Et il nous ordonne tous, veillez. Je le dis à tous, veillez. Quel parallèle entre notre vie spirituelle et ce qui se passe ici dans la parole de Dieu. Nos efforts, la mise en application de la sagesse qui nous accorde, ont un impact sur le rendement spirituel que nous produisons dans l'Église. Bien sûr, dans la vie personnelle des membres individuels et dans l'Église collective. Nos efforts ont un impact. Le rendement spirituel demande logiquement un investissement spirituel. La prière, l'étude biblique, le jeûne. Voici quelques exemples des investissements spirituels. Le développement des talents en résulte. En quelque sorte, nous préparons le terrain en avance en attendant la provision de l'Éternel. Nous préparons le terrain en avance. J'ai déjà posé cette question, ou j'ai déjà fait ce propos à quelques assemblées. Imaginez s'il y avait un groupe de 200 personnes qui s'intéressaient à nous de rejoindre ici et qu'ils étaient sincères. Serions-nous prêts, non pas physiquement, je sais que beaucoup d'entre vous ont pensé peut-être à la salle de réunion et le nombre de chaises peut-être, Mais moi, je parle plutôt en termes spirituels. Serions-nous prêts spirituellement pour les recevoir? Par exemple, serions-nous prêts de donner des conseils, de les enseigner les doctrines de l'Église, de leur rendre service, de fraterniser avec eux? Serions-nous prêts pour la croissance accordée par Dieu? C'est Dieu qui donne la croissance au corps spirituel de l'Église de Dieu. Nous participons à cette croissance, mais nous ne sommes pas le tout. La prière, le jeûne, l'étude biblique servent, ou même servir les autres en humilité, nous aident à continuer à nous développer spirituellement. Sans l'inspiration de l'Esprit Saint, nos efforts risquent d'être mal visés. Nous suivons l'instruction divine et non pas l'exemple du monde qui nous entoure. L'acte de donner la dîme nous permet de participer même dans une façon instructive dans la croissance de l'Église. Nous développons avec l'acte de la dîme de perspective en donnant la dîme que c'est Dieu qui est propriétaire de tout. En fait, c'est Dieu qui nous a donné tout ce que nous possédons. Et alors nous rendons simplement une dixième de ce qu'il nous accorde dans sa bienveillance. Si nous suivons l'exemple du monde, nous risquons d'adopter des perspectives que c'est par nos efforts seuls que nous gagnons des revenus. Pensons à ces leçons spirituelles lorsque nous avons de la croissance dans nos vies. La croissance de Dieu est sans fin. La croissance de Dieu est sans limite. Tous les ans, à la fête des tabernacles, nous citons Ésaïe chapitre 9 et le verset 7 qui parle de l'accroissement. Le verset 7 donnait à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Nous pensons à cette éternité, cet exemple, lorsque nous sommes à la fête des tabernacles, mais tous les jours, nous pouvons réfléchir à l'abondance et l'amour et la croissance de Dieu qui est sans fin et sans limite. Quelle que soit l'ampleur de nos fautes envers Dieu, sa croissance sera bien plus importante que la somme de nos fautes. Son plan est parfait. Son plan n'échouera pas. Tout à l'heure, nous avons cité Hébreux chapitre 2 et le verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par des souffrances le prince de leur salut. Chaque étape du plan de Dieu a une leçon, a plusieurs leçons. Chaque étape a un but et chaque étape sera accomplie. Son plan arrivera à la perfection. Son plan n'est pas limité à un certain petit nombre de peuples, mais son plan entier comprend toute l'humanité. Personne n'est exclu de son plan. Des fois, Dieu attend notre préparation. Il attend de nous de nous préparer avant de nous donner une certaine croissance, une certaine bénédiction. Des fois, nous ne sommes même pas prêts à le recevoir. Mais son plan indique un processus. Il nous prépare, si nous sommes bien d'accord, de suivre sa voix et d'écouter ses paroles. C'est une progression vers la perfection. C'est une progression vers une certaine croissance. Il nous prépare pour la grande récolte. La grande récolte à la fin des 1000 ans de règne de Jésus-Christ sur la terre. Il attend de nous, les membres de l'Église, une préparation en avance. et il nous donne des promesses magnifiques et incroyables si nous sommes d'accord pour suivre ses voies. Un jour, les limites physiques ne seront plus sur notre vie spirituelle. Nous aurons la possibilité d'être changés, de recevoir la gloire. C'est dans la Bible. Il nous promet que ses saints, que les siens seront bénis avec la gloire. Mais aujourd'hui, nous faisons partie de ceux qui labourent, de ceux qui préparent le terrain pour l'avenir. Donc, pour résumer et pour conclure aujourd'hui, que faisons-nous afin de participer à cette croissance? Nous avons chacun d'entre nous un rôle à jouer dans la croissance. Nous pouvons d'abord et toujours remercier Dieu pour toute chose qu'il nous accorde. Il faut reconnaître que Dieu soit la source de toute chose, de toute bonne croissance, et que c'est des bénédictions qui viennent de Dieu. Des fois, nous sommes plutôt dans un certain cycle de répétition entre la demande dans la prière, nous allons demander certaines choses, et puis Dieu va nous donner, il va donner ce que nous avons demandé, mais des fois, au lieu de remercier Dieu, nous avons l'idée en tête, ah, il faut demander encore quelque chose d'autre. Et nous pouvons entrer dans un cycle de toujours demander et de ne rien ou de ne jamais remercier. Donc d'abord, remercions Dieu pour tout ce qu'il nous accorde. Deuxième chose que nous pouvons faire, c'est réinvestir. S'il nous a donné quelque chose, si nous sommes reconnaissants envers Dieu de sa bénédiction, nous pouvons demander à Dieu, comment puis-je mettre en place, mettre en œuvre ce que tu m'as accordé. Bien sûr, si nous pensons à la création divine, le fruit contient toujours la semence, n'est-ce pas? Le fruit contient la semence pour produire encore plus. Donc si nous avons un fruit ou quelque chose qui nous a accordé, nous pouvons demander à Dieu de l'aide à réinvestir, à planter, à donner encore de ce qu'il nous a accordé. L'idée de réinvestir est très importante. Troisièmement, il faut toujours rester concentré, il faut toujours rester les yeux fixés sur le royaume de Dieu. Tout ce que Dieu nous accorde dans la vie est une bonne chose. Il nous accorde beaucoup de bénédictions. Mais les bénédictions qu'il nous accorde ne devraient jamais nous distraire de notre objectif ultime, d'entrer au royaume de Dieu. Nous pouvons, comme Matthieu 13 nous a expliqué, nous pouvons avoir une perspective que tout ce qui compte, c'est les choses de ce monde. Nous pouvons penser seulement au fait que, comme ici, la séduction des richesses qui étouffe la parole et qui la rend infructueuse. Ce sont des soucis du siècle. Il ne faut pas devenir distrait par les soucis de ce siècle. Il faut rester concentré, focalisé, il faut rester les yeux fixes sur le royaume de Dieu. C'est lui qui va nous guider à notre but ultime. Il va s'occuper de nous aussi si nous restons focalisés sur le royaume de Dieu et sur sa justice. Il y a toujours plus que nous pouvons apprendre, toujours plus que nous pouvons faire. Mais Dieu est avec nous, avec son Esprit Saint, il est en nous et il nous aide. Il accomplit son plan magnifique par son peuple, par ses élus, ceux qui choisit, ceux qu'il a appelés à devenir ses fils. Et nous sommes heureux de faire partie de ce plan magnifique de Dieu. Donc, n'oublions jamais que c'est Dieu qui accorde la croissance. Même dans les périodes de sécheresse, même dans les périodes difficiles dans la vie, si jamais il nous enlève une bénédiction, c'est probablement pour nous châtier, pour nous corriger, pour nous faire penser aux vraies valeurs, aux choses les plus importantes de la vie. Et c'est toujours lui, c'est notre relation avec notre Père Céleste qui est avant tout dans notre vie. Donc, considérons toujours Dieu et son rôle ultime et magnifique dans la croissance.